Chapitre 11. Maîtriser l'art de commander sans en avoir l'air. Nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou d'une moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer une vie. Léo Bouscaglia. Vous avez parfois du mal à convaincre votre entourage de suivre vos directives. Vous n'êtes pas un leader né. De ceux que l'on suit presque aveuglément, ce n'est pas grave, cela s'apprend. Je ne cherche pas à vous transformer en roi de la manipulation humaine et vous n'avez pas besoin d'être un manager pour acquérir les bases de l'art de commander sans en avoir l'air. Cela vous sera utile dans tous les domaines de votre vie, pour l'éducation de vos enfants, vos rapports de bon voisinage, vos activités sociales. Il existe une méthode très simple. En fait, pour diriger quiconque sans pour autant avoir le rôle officiel du leader, bien plus efficace et logique, et surtout beaucoup plus simple. Vous allez le voir tout de suite. Des patrons et des hommes. Voici le témoignage de Laurence, commerciale de 37 ans. Je me suis longtemps posé la question, et je me la pose encore. Suis-je victime de harcèlement moral ? Mon directeur commercial a un comportement très étrange, particulièrement avec moi. Je suis commercial et assure un excellent développement. Mes collègues m'apprécient pour la plupart, mes clients aussi. Les supérieurs hiérarchiques de notre entreprise, grand groupe, connaissent mes capacités et reconnaissent mes compétences. Ce directeur commercial, lui, me fait pourtant énormément douter de moi. Je pense qu'il est conscient de ma valeur pour l'entreprise et de ses propres lacunes. Aussi, il est constamment en train de me diminuer ou de me faire remettre en question. Par exemple, en entretien d'évaluation, il ne me félicite pas de mon travail, mais attire mon attention sur les échecs de l'année. Il se base sur l'avis d'une personne avec laquelle je ne m'entends pas pour me dire qu'il faudrait que je sois plus agréable avec mes collaborateurs, plus sociable et moins grosse tête. Lorsque j'exprime mon désaccord sur ses remarques, il n'entend plus et fait fi de mon avis. À cause de lui, même si je commence à connaître son fonctionnement, je me remets sans cesse en question. Je perds peu à peu le goût pour mon travail qui pourtant me passionne. Je suis actuellement en arrêt pour maladie depuis 15 jours et il m'appelle chaque jour 3 à 4 fois, prétextant des questions sur tel ou tel dossier. Il m'a même proposé de m'appeler à mon domicile. La lutte est rude, car longue. J'ai quand même la chance d'avoir des collègues qui le connaissent et qui, en toute impartialité, me donnent raison et constatent qu'il a un problème. Au premier abord, c'est pourtant quelqu'un qui semble enthousiaste. Il a une trentaine d'années, est marié, a des enfants. Je cherche depuis peu un moyen de le court-circuiter auprès de la direction, car il est dangereux. Il bloque mon évolution professionnelle. La voie hiérarchique est très respectée dans notre société et il raconte ce qu'il veut aux décideurs. Je reste donc de marbre, tout sourire, et je réfléchis à l'action à entreprendre pour qu'il se grille tout seul. C'est la seule façon pour moi de m'en sortir, sinon je devrais partir. Je ne lui ferai pas ce plaisir. Pourquoi y a-t-il de mauvais managers ? Sans doute avez-vous déjà connu des chefs semblables à celui de Laurence, jouant de leur pouvoir, surtout s'il est limité, en remettant en question les capacités de leurs collaborateurs alors même qu'ils ont de bons résultats. Car il ne suffit pas de savoir commander, il faut surtout savoir communiquer. J'ai eu de nombreux chefs d'équipe durant mes années de service en centre d'appel, et j'ai pu constater la différence alors que les règles étaient toujours les mêmes. Et que les objectifs étaient identiques. C'est la personnalité qui va faire la différence. L'un de mes chefs, une jeune femme, a été ma pire expérience. Nous nous entendions très bien à l'extérieur, je l'appréciais vraiment. Mais dans le cadre du boulot, c'était une catastrophe. Elle était incapable de valoriser le travail de ses collaborateurs et provoquait découragement et déception, alors qu'il aurait suffi de si peu pour que tout roule. Que vous soyez manager ou pas, peu importe. Lorsque vous êtes amené à travailler en collaboration avec quelqu'un ou à attendre quelque chose de lui, il vous faut connaître les règles d'or. Les règles d'or, ne les oubliez jamais. Je vais vous donner quelques règles à suivre pour toutes les situations de travail en collaboration ou de directives à donner. Vous en avez déjà vu certaines au cours des chapitres précédents, mais ce sera l'occasion de les revoir et d'en découvrir d'autres. Valorisez toujours l'autre avant toute chose. Si vous souhaitez obtenir quelque chose d'autrui, ce n'est qu'en valorisant ses actions, son potentiel et ses qualités que vous obtiendrez sa pleine coopération. Faites en sorte que l'idée vienne d'eux. C'est une méthode très efficace pour amener les gens à faire ce que vous souhaitez, sans même qu'ils s'en rendent compte. Il vous suffit de faire quelques suggestions, puis de les laisser réfléchir, quitte à orienter dans la bonne direction si vous voyez que ça cafouille. Les autres apprécieront d'autant plus de suivre une idée qu'ils croient être la leur. Trouvez à chaque fois ce qui va les motiver pour qu'ils suivent la bonne direction. Vous avez déjà vu ce principe, mais il est utile de le rappeler ici. Ce sont leurs intérêts que les autres vont rechercher, ce qui est tout à fait naturel. Que vos intérêts coïncident avec les leurs, et voilà une collaboration fructueuse. Cherchez toujours l'accord préalable, le oui au lieu du non. On appelle ça l'art de Socrate, et c'est un point capital. J'y reviens tout de suite. Induire le oui d'office, un art qui se cultive. Cet art de Socrate repose sur un postulat de base très simple. Une fois que quelqu'un vous a dit oui, il lui sera très difficile de revenir sur cette attitude positive. A l'inverse, s'il commence à vous dire non, le faire changer de position s'avérera une tâche sacrément ardue. On explique ce principe de la manière suivante. C'est le principe de l'inertie mentale. Ainsi, il est beaucoup plus facile de faire dire oui à quelqu'un s'il vient déjà de dire oui plusieurs fois à d'autres choses, que s'il a dit non ou si on ne lui a encore rien demandé. Le but est donc, par diverses manières, que vous verrez dans un instant, de faire dire oui à la personne plusieurs fois au cours de la conversation que vous allez avoir avec elle. Oui, pour des choses simples, des choses même et surtout banales, car il faut absolument et dans un premier temps créer des structures de phrases qui vont générer du « oui ». La technique de Socrate mise au goût du jour, le truisme. Vous allez utiliser dans cette technique ce que l'on nomme des truismes. Le mot « truisme » est dérivé du mot « true », anglais qui signifie « vérité ». Un truisme est ainsi une vérité qui ne peut pas être contestée, une lapalissade, par exemple, car c'est plus agréable d'être confortablement installé. Cette phrase ne peut pas être contestée, personne ne va vous répondre non. Le but des truismes est donc de générer du oui. Le truisme provoque une série d'acceptations naturelles qui créent un climat positif dans le ton de ce qui est écrit ou dit. Comme lorsqu'on utilise les phrases « Et c'est tellement agréable de se détendre !» Et c'est toujours plus difficile quand c'est compliqué. Et vous pouvez faire ce que vous avez à faire. L'utilisation des truismes est la manière la plus simple et efficace de provoquer du « oui ». Vous pouvez, si vous le souhaitez, suivant les cas, utiliser d'autres questions directes, mais il faut toujours que vous ayez la certitude absolue que la personne va répondre « oui » mentalement. Du « oui » mental à l'acceptation tacite. Je parle de « oui » mental car bien souvent l'approbation à ce qui est dit se fait sans même que la personne ne s'en rende compte. Elle n'est pas consciente qu'elle vient d'acquiescer à ce qu'elle vient d'entendre. Et pourtant, cela agit sur elle et sur l'orientation de son cerveau. Pour prendre une image parlante, imaginez que le cerveau est comme le lourd tambour d'une machine à laver. Chaque fois que la personne dit ou pense « oui », le lourd tambour se met à tourner dans un sens. Et plus il y a de « oui », et plus il va tourner vite dans ce sens, entraîné par l'inertie. De ce fait, plus il tourne vite, plus il deviendra difficile à arrêter. Lorsque la personne pense ou dit non, le tambour se met à tourner de l'autre côté, ou s'il l'est déjà lancé, il ne pourra qu'essayer de ralentir le mouvement généré par les oui précédents. Donc, en théorie et en pratique, on constate qu'il est beaucoup plus difficile de dire non si l'on vient déjà de dire plusieurs fois oui à d'autres choses. Mais cette phrase, je l'ai déjà dite, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ce n'est-ce pas? Car c'est une excellente tournure pour générer du oui. Les n'est-ce pas ou l'adhésion implicite de votre auditeur. Vous avez sans doute remarqué que je l'utilise moi-même assez souvent dans mon ouvrage, n'est-ce pas? Rassurez-vous, je ne suis pas en train de tenter sur votre personne un lavage de cerveau express, avec messages subliminaux et tutti quanti. Il ne s'agit que d'une technique simple et généralement très efficace d'induire l'adhésion de votre lecteur ou de votre auditeur en le prenant à témoin et en induisant, bien entendu, le précieux oui. Les meilleurs vendeurs à domicile ont bien souvent une technique de vente préparée à l'avance et au mot près. Il y a de cela quelques mois, l'un de ces vendeurs m'expliquait que dans sa démonstration, il existait sept endroits différents, sept endroits stratégiques où il devait faire dire oui au futur acheteur du produit miracle et miraculeusement cher qu'il vendait. Si la personne disait oui à chacune de ces étapes, il était quasiment impossible qu'elle dise non à la conclusion de la vente, celle-ci étant assurée à 95%. Pour les récalcitrants, la même technique améliorée. Il existe des variantes de cette méthode que vous pouvez utiliser en cas d'auditeur particulièrement retors et insensible à vos subtilités. On l'utilise en hypnose ou en PNL avec les fortes têtes, avec les clients récalcitrants, les personnes qui diraient non juste pour le plaisir de contredire, car ils existent. Vous pouvez l'expérimenter tous les jours avec vos enfants, surtout s'ils approchent de l'adolescence, ou avec certains de vos collaborateurs ou collègues qui se positionnent toujours en contre par défaut, par principe. Avec ces personnes-là, et vous le saurez plus ou moins à l'avance selon leurs attitudes, il vaut mieux utiliser cette variante de l'art de Socrate. Le principe est le même, mais au lieu de chercher à générer du oui, vous allez chercher à générer du non. Vous faites tourner le cerveau de la personne dans l'autre sens pour au final lui poser une question ou lui demander une chose à laquelle elle va répondre non. Par exemple, la question que vous poserez ne sera pas « Veux-tu faire des efforts pour décrocher un A en français ?» mais plutôt « Veux-tu rester dans ta situation actuelle » Sous-entendu, il faut te bouger, prendre une décision, afin que la personne réponde « Non ». Donc, je vais bouger, prendre cette décision maintenant. De la pratique, toujours de la pratique. Comme pour toutes les techniques précédentes, l'utilisation des truismes et de l'art de Socrate peut paraître relativement facile en apparence, et le piège est dans sa facilité. Croire que vous avez compris parfaitement la technique et par conséquent ne pas chercher à aller encore plus loin, à progresser sur le chemin de la subtilité, de la transparence, de la quasi-invisibilité de cette technique. Si vous l'utilisez avec beaucoup d'expérience et en mobilisant toutes les ressources conscientes et inconscientes qui sont en vous pour la placer au bon endroit et de la meilleure manière, je vous garantis des résultats impressionnants. Considérez chaque technique, chaque chose que vous apprenez ici comme une science à part entière, qu'il ne vous faudra peut-être que quelques jours ou quelques heures pour connaître intellectuellement. Mais qu'il vous faudra parfois pratiquer longtemps et dans différents contextes pour espérer en retirer tout le potentiel imaginable. Un professionnel dans l'utilisation de ces techniques va pouvoir les utiliser sans que lui-même ne sache consciemment reconnaître où la technique est placée. La seule chose dont il aura vraiment conscience est que le but visé est atteint.